France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. L'appétit pour le plaisir des sens, le pouvoir des mots. Hymne à la jouissance, dont on a loué les accents païens et qui s'énonçait pour la première fois sous la plume d'une femme, d'une Française. Julia Kristeva racontait Colette en août 2003 sur France Culture dans une série dont voici le deuxième épisode.
De l'écriture au féminin. Notre Colette, par Julia Kristeva. Aujourd'hui, les vrilles de la vigne.
Après avoir écrit quelques romans dont le personnage principal est une jeune héroïne espiègle quelque peu perverse, après avoir essuyé quelques troubles dans son ménage avec le célèbre et remuant Willy, Colette change d'écriture. Et c'est à partir de ce changement, qui se marque tout particulièrement dans un petit volume intitulé « Les vrilles de la vigne », c'est à partir de ce petit changement qui est en fait un grand tournant dans son expérience parce qu'il condense le style apparu déjà dans les Claudines en quelque chose de formulaire, de frappant et de tout à fait colettien. C'est à partir de ce moment-là qu'elle gagne sa place dans le panthéon des lettres françaises. Je vais essayer de vous proposer une lecture très précise d'un petit texte qui est recueilli dans ce petit livre, « Les vrilles de la vigne », et qui s'appelle lui-même « Les vrilles de la vigne ». Je pense qu'il est important, avant d'entrer plus loin dans les autres émissions, à l'intérieur de l'imaginaire de Colette, de ses épreuves érotiques ou politiques, je crois qu'il est important de se pencher sur les détails de son style, parce que un écrivain, c'est quand même son style. Et nous ne pourrons pas comprendre facilement ou difficilement ses implications dans le siècle ou dans l'univers, auprès de ses amis ou dans son propre inconscient, sans entrer dans les dédales de cette écriture. Donc, « Les vrilles de la vigne ». C'est un petit texte donc qui se situe au moment où elle essaye de se séparer de Willy, aussi bien que des maîtresses de Willy qui commencent à être aussi ses maîtresses à elle, sous l'impulsion de Willy lui-même, mais l'élève qu'elle était s'avère être une virtuose en art érotique, donc elle se montre extrêmement capable de mener sa barque érotique mieux que Willy ne le supposait. Eh bien, tout cela finit par la lasser. Et elle écrit ce texte suite à une maladie dont on pense maintenant qu'elle est une maladie psychosomatique consécutive au désarroi dans lequel l'ont plongé les infidélités de Willy. Elle écrit ce petit texte sans personnage humain qui ressemble à une sorte de fable tombée du continent enfoui de La Fontaine. Donc « Les vrilles de la vigne ».
Autrefois, le rossignol ne chantait pas la nuit. Il avait un gentil filet de voix et s'en servait avec adresse du matin au soir, le printemps venu. Il se levait avec les camarades, dans l'aube grise et bleue, et leur éveil effarouché secouait les hannetons endormis à l'envers des feuilles de lilas. Il se couchait sur le coup de 7 heures, 7 heures et demie, n'importe où, souvent dans les vignes en fleurs qui sentent le réséda, et ne faisait qu'un somme, jusqu'au lendemain.
Le premier mot est « autrefois ». La parole qui s'amorce ainsi ne sera certainement pas une histoire, au sens vrai du terme. Mais d'emblée, cet « autrefois » nous signale que le texte dont il va s'agir est hanté par le temps qui passe et que la question sera comment sortir du passé, comment renaître après cet adverbe de temps au passé. Le héros apparaît aussitôt, c'est un rossignol. C'est un choix étonnant. Le lecteur ne le sait pas encore, mais ceux qui oseront lire Colette jusqu'au bout l'apprendront dans les textes ultérieurs de l'écrivain. Notre auteur n'aime pas les oiseaux. Or, ici, nous avons un rossignol. Alors, pourquoi n'aime-t-elle pas les oiseaux ? L'oiseau, dit-elle, est loin, elle qui aime les chats et les chiens pour se blottir et pour se consoler de cette tristesse. Elle n'apprécie pas l'oiseau apparemment, mais nous verrons que c'est plus compliqué. En tout cas, méfiance. L'oiseau est loin, je préfère la bête qui a quatre pieds ou pattes. Cet oiseau qui a toujours les bras croisés sur le dos et qui n'en use que pour voler, il m'intrigue, il m'échappe, il m'échauffe moins que les quadrupèdes. Comble de perversité, dans une de ses nouvelles policières, parce que Colette a écrit aussi des nouvelles policières, c'est ce que vous ne savez pas, un des personnages monstrueux de Colette, le très convenable Monsieur Dast, s'amuse à tuer des perruches par dizaines. Quant à Landru, le célèbre assassin, au procès duquel Colette va consacrer un certain nombre de textes, elle lui trouve l'œil brillant comme l'œil des oiseaux, comme eux dénudés de langage, d'attendrissement et de mélancolie. Donc, les oiseaux seraient monstrueux, comme un assassin, comme un rossignol écrivain, car c'est précisément le rôle que l'écrivain va accorder au rossignol dans ce texte, rossignol, c'est-à-dire écrivain. Dans Les vrilles de la vigne, ce n'est pas l'inaccessible volatile que Colette va nous présenter, mais justement le roi du chant qui, par sa voix, émerveille l'écrivain. Rossignol est un artiste. D'ailleurs, les allitérations du titre, tout en labiale vibrante et mouillée, comme le v, le r, le i, le n, les vrilles de la vigne, tout ça laisse entendre que c'est dans la musique que le rossignol s'envole vraiment pour de bon, et c'est pourquoi il est l'exemple même de la figure de l'écrivain. Écoutons donc à nouveau le titre, Vrilles de la vigne. Dans le monde secret de Colette, les vibrations de la bouche et les bourdonnements d'oreilles, dents et lèvres rapprochées en v, sont associés à un état de perte de soi, de fièvre ravageante et pourtant propice à l'écriture. Elle écrit ceci par exemple. La fièvre va son train qui n'est pas ennuyeux. Elle souffle de grands v autour de moi avec une profusion de v. Elle semble avoir emprunté tous les v détendus dans des mots largement aérés comme vent, vortex, vol. Eh bien, les vrilles de la vigne, avec ces v permanents que vous entendez encore une fois, est-ce que ces vrilles de la vigne seraient écrites dans cet état fébrile où les limites de soi s'effacent dans le vent, le vortex, le vol d'une certaine maladie? Eh bien, nous y sommes. Figure rare dans le bestiaire de Colette, le rossignol est en effet lié au premier chagrin de la jeune Madame Gauthier-Villars à Paris. Lorsque, en 1894, Colette, malheureuse des inconstances de Willy, souffre d'une maladie psychosomatique, la chance envoie à son chevet son ami Marcel Schwab, qui, dit-elle, fidèlement ouvrait un volume de contes américains ou anglais. En 1891, Marcel Schwab a traduit quatre contes d'Oscar Wilde, dont l'un s'intitule « Le rossignol et la rose ». Aurait-il lu à son jeune ami cette histoire d'un amour impossible qui décrit l'incompatibilité entre les sexes? C'est une hypothèse que je crois tout près de la vérité. Ce romantisme tragique qui imprègne la culture de son époque et qui n'épargne pas donc la vie conjugale de Colette, malgré les dénégations libertines de Willy, demeure sous-entendu dans les vrilles de la vigne. Avec pudeur, notre auteur évite en effet le récit de ses amours douloureuses, et ne développent que la trace de la sublimation esthétique qui leur succède. Enfin, à ces résonances romantiques, on devrait ajouter le symbolisme inconscient du volatile et sa connotation masculine. Dans beaucoup de langues, l'oiseau est associé à l'érection du sexe mâle. Je note pour le moment que le symbole mâle est pris en compte, qui, dans le deuxième mouvement du texte, va apparaître sous la forme d'un rossignol, mâle donc, qui craint d'être prisonnier de la vigne. Il n'est pas sans faire couple avec elle non plus. N'entend-on pas la même consonne liquide « gne » dans rossignol et vigne, féminin, masculin, masculin, féminin, comme s'il se répondait en écho et en miroir, duo ligoté par un même plaisir de bouche, par une avidité assouplie. Le deuxième mouvement s'empressera précisément de réveiller et de changer cette ivresse amoureuse, cet homme-femme, cette femme-homme, ou comme Colette les appelle, un hermaphrodite mental, elle se voulait hermaphrodite mental, rossignol-vigne ou vigne-rossignol.
Une nuit de printemps, le rossignol dormait debout sur un jeune sarment, le jabot en boule et la tête inclinée comme avec un gracieux torticolis. Pendant son sommeil, les cornes de la vigne, ces vrilles cassantes et tenaces, dont l'acidité d'oseille fraîche irrite et désaltère, les vrilles de la vigne poussèrent si dru cette nuit-là que le rossignol s'éveilla ligoté, les pattes empêtrées de liens fourchus, les ailes impuissantes. Il crut mourir, se débattit, ne s'évada qu'au prix de mille peines et, de tout le printemps, se jura de ne plus dormir, tant que les vrilles de la vigne pousseraient.
À côté de l'écrivain, sujet de l'énonciation qui se protège encore dans les ombres de l'intertexte et du rossignol qui assume le premier rôle, voilà qu'il y a un troisième personnage qui fait ici son entrée, annoncé dès le titre et qui maintenant déploie sa puissante nocivité, c'est la vigne. Alors, la vigne a une place très importante chez Colette. La vigne est l'image d'une volupté captivante et maléfique. La vigne du rossignol n'est pas sans lien non plus, avec le capitaine Colette, qui est tout simplement le père qu'il est temps de signaler, parce que je vous ai déjà parlé de Sido, et nous y reviendrons, mais c'est le père Colette qui a donné son nom à sa fille, l'écrivaine, lui, l'unijambiste, blessé de la guerre, et qui se présentait comme un écrivain, qui s'enfermait dans sa chambre, dans son bureau pour écrire des chroniques de son héroïsme, avant qu'on s'aperçoive à sa mort que ses dossiers étaient pleins de feuilles blanches, avec comme seule écriture la dédicace à Sido précisément. Donc, la vigne renvoie aussi à l'amour de Colette pour son père, le capitaine Colette. Pourquoi ? Parce que sa fillette, avant de devenir la grande Colette, la petite Gabrielle Sidonie, dite plus tard Colette, était, ce qu'elle prétend plus tard être, mais c'est son père qui parle, son agent électoral, qui goûtait, parfois avec quelque excès, la griserie du vin, pendant qu'il l'amenait dans ses campagnes électorales, au point que Sido dut intervenir pour arrêter de telles proximités, allez, on va dire, politiques. Après sa redécouverte de Sido en 1930 et la réconciliation avec l'espace cosmique que représente sa mère et que Sido donc va incarner, Colette déculpabilise le plaisir bachique qu'elle éprouvait avec son père et dans Prison et Paradis, un texte publié en 1932, elle savoure le vin comme le plus délicieux des nectars. Coup de soleil. Choc voluptueux, illumination des papilles neuves, ce sacre me rendit à jamais digne du vin. Mais pour l'instant, avec les vrilles de la vigne justement, nous sommes en 1905-1908, les vrilles sont menaçantes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que l'ivresse sexuelle est ressentie par Colette comme une magie morbide. Les sorcelleries du désir, celle de Rézy comme celle de Willy, sont des liens fourchus qui nous ligotent et rendent nos ailes impuissantes. Ainsi donc, après avoir souffert mille peines, au point de croire en mourir, notre rossignol se promet de ne plus dormir tant que poussent les vrilles de la vigne.
Dès la nuit suivante, il chanta pour se tenir éveillé. Tant que la vigne pousse, 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 je ne dormirai plus. Tant que la vigne pousse, pousse, pousse. Il varia son thème. L'enguirlanda de vocalise, s'éprit de sa voix, devint ce chanteur éperdu, enivré et haletant qu'on écoute avec le désir insupportable de le voir chanter. J'ai vu chanter un rossignol sous la lune, un rossignol libre et qui ne se savait pas épié. Il s'interrompt parfois, le col penché, comme pour écouter en lui le prolongement d'une note éteinte. Puis il reprend de toute sa force, gonflé, la gorge renversée, avec un air d'amoureux désespoir. Il chante pour chanter. Il chante de si belles choses qu'il ne sait plus ce qu'elles veulent dire. Mais moi, j'entends encore, à travers les notes d'or, les sons de flûte graves, les trilles tremblées et cristallins, les cris purs et vigoureux. J'entends encore le premier chant naïf et effrayé du rossignol pris aux vrilles de la vigne. Tant que la vigne pousse, pousse, pousse.
Pour se protéger des vrilles de la vigne, cette fois, il chante, il chante, il chante tant que la vigne pousse, pousse, pousse. C'est ainsi qu'il va oublier les dangers de la vigne. Le rossignol, cependant, va bien plus loin que cela. Il s'éprend de sa propre voix. Et ces répétitions se transforment en variations. Mais cet enivrement éperdu de soi-même métamorphose notre narcisse artiste en objet de fascination pour les autres. Et c'est le moment capital. On, c'est ici qu'apparaît un pronom impersonnel et qui va être celui du public. Jusqu'à présent, la narratrice se désignait comme « on », mais maintenant c'est le public qu'on va découvrir sous ce « on ». On impute à ce chanteur un insupportable désir, celui de le voir chanter ou d'être vu chantant. Arrêtons-nous un instant sur ce rossignol qui chante et qui se fait voir en train de chanter, car toute la Colette est là. « Regarde », c'était la devise de Sido, sa mère, et lui aurait transmis comme seule leçon « Regarde, regarde le monde ». Cela deviendra aussi la devise de Colette. Sa carrière de mime et de comédienne l'a conduite à s'exposer elle-même. Voir et être vue. Dès ses premières sorties dans les salons parisiens, dès ses premiers romans, dès ses premiers rôles sur scène, Colette n'ignore rien de ce goût français du spectacle. Culture de la monstration, de l'apparition et de l'apparence, la France de la Belle Époque invente ce qui est déjà notre modernité. Colette appartient tout entière à cette culture du paraître et n'en rejette aucun des charmes, je dirais, acidulés. Je reprends le texte de Colette. Il, le rossignol, varia son thème. L'enguirlanda de vocalise, s'éprit de sa voix, devint ce chanteur éperdu qu'on écoute avec le désir insupportable de le voir chanter. Mesdames et messieurs, actrices et acteurs, est-ce qu'on vous écoute ou est-ce qu'on est là pour vous voir chanter? C'est le grand débat de la modernité dans lequel Colette nous introduit et auquel elle était de son temps déjà sensible.
Cassante, tenace, les vrilles d'une vigne amère m'avaient lié, tandis que dans mon printemps je dormais d'un somme heureux et sans défiance. Mais j'ai rompu, d'un sursaut effrayé, tous ces fils tors qui déjà tenaient ma chair, et j'ai fui. Quand la torpeur d'une nouvelle nuit de miel a pesé sur mes paupières, j'ai craint les vrilles de la vigne, et j'ai jeté tout haut une plainte, qui m'a révélé ma voix. toute seule éveillée dans la nuit, je regarde à présent monter devant moi l'astre voluptueux et morose. Pour me défendre de retomber dans l'heureux sommeil, dans le printemps menteur où fleurit la vigne crochue, j'écoute le son de ma voix. Parfois, je crie fiévreusement ce qu'on a coutume de taire, ce qui se chuchote très bas, puis ma voix languit jusqu'au murmure parce que je n'ose poursuivre. Je voudrais dire tout ce que je sais, tout ce que je pense, tout ce que je devine, tout ce qui m'enchante et me blesse et m'étonne, mais il y a toujours, vers l'aube de cette nuit sonore, une sage main fraîche qui se pose sur ma bouche, et mon cri qui s'exaltait redescend au verbiage modéré, à la volubilité de l'enfant qui parle haut pour se rassurer et s'étourdir. Je ne connais plus le somme heureux, mais je ne crains plus les vrilles de la vigne.
Cet arrachement à la psychologie, cette autonomie conquise dans lesquelles s'engage notre rossignol auteur, n'est pourtant pas un monde autarcique. Imprévu dans le programme exténuant de séduction-trahison mis en place par la sexualité masculine, au secours duquel elle était partie, Colette, maintenant, s'offre un nouveau secours. Un nouveau secours, plutôt, lui est offert. C'est la présence de Missy, la marquise de Morny, sa maîtresse. La sage main fraîche qui se pose sur ma bouche dans cette nouvelle nuit sonore est celle de son expérience de l'homosexualité qu'elle considère comme une protection maternelle et comme une consolation contre les tristesses de la vie. Donc, à la nuit toxique de la vigne, notre rossignol va opposer sa propre nuit sonore. Colette n'a pas encore percé les pièges morbides des amitiés homosexuelles féminines, comme elle le fera dans son très beau texte qui s'appelle « Le pur et l'impur ». Pour l'heure, elle se pacifie avec une extraordinaire lucidité en se confiant aux mains d'une mère de substitution. Elle est à la recherche d'un moi polyphonique qui se réalisera seulement dans la solitude de l'œuvre. Non sans apercevoir dès maintenant que l'étreinte apaisante de l'ami est lourde d'une régression qui la pousse au verbiage modéré quand ce n'est pas à la volubilité d'un enfant qui s'étourdit. Qu'importe, une nouvelle sublimation est en cours qui passe par Missy pour permettre de faire le deuil d'un certain désir venimeux, celle des vrilles de la vigne. Mais Colette sait aussi reconnaître cette dette envers le monde dionysiaque du désir. Elle sera toujours au-delà du désir, jamais en deçà, à condition de s'en défaire. Adieu, vrilles de la vigne, adieu aussi, sommeil heureux, demeure la finalité d'une jouissance autre. Mais laquelle ? Rien ne l'explicite pour le moment. Les multiples facettes des textes de Colette nous invitent à la déchiffrer entre les lignes. Ni amour de la maternité, ni fidélité au couple ne sont des valeurs pour Colette. Et son ancrage dans la sublimation ne connaît pas les cruautés du désir masculin, ses liens torts, ses vrilles de la vigne dans lesquelles se mêlent ravages de l'amour et consolation de l'amitié. L'auteur ne renonce pas non plus à sa propre virilité de rossignol qui poursuit son chemin la plume à la main. Mais elle amplifie sa griserie par un recours permanent à une féminité toujours incomplète, dérobée et énigmatique. D'abord homosexualité féminine, puis la capture et la dévoration de la mère incestueuse, expérience qu'elle va vivre dans ses liens incestuelle avec son beau-fils Bertrand de Jouvenel, avant de s'apaiser dans une nouvelle version de sa chair retrouvée par le chant désormais triomphal qui n'est ni cri ni murmure, mais véritable cantique païen de la sérénité. Celle-ci s'amorce avec la maison de Claudine, triomphe avec Sido, la naissance du jour, le pur et l'impur, et se dissémine dans tous les autres écrits. ce que je voulais vous faire entendre dans cette fable, c'est aussi une particularité du style de Colette qui consiste à utiliser un resserrement maximal, une concentration, le genre fable le permet, et dans lequel les mots passent par des sensations fortement éprouvées, ici le chagrin, mais aussi l'ivresse amoureuse, pour nous faire basculer dans les objets eux-mêmes, dans les personnages, ici l'oiseau, la vigne, dans le monde. Nous assistons, certains diront, à une métaphore, pas du tout. Je dis que le rossignol n'est pas la métaphore de Colette. Il est sa métamorphose. Quelle est la différence ? Baudelaire, dans Les paradis artificiels, parle d'un écrivain qui fait des comparaisons et qui se prend pour l'arbre. Ce n'est pas son cas à lui, Baudelaire. Quand Baudelaire dit, peut-être sous l'effet du vin ou du haschich, quand Baudelaire dit donc qu'il est l'arbre, ce n'est pas une comparaison, dit-il. Je suis l'arbre, je m'identifie avec lui. Cause et effet, sujet et objet, magnétiseur et somnambule. Eh bien, il y a de ça chez Colette. Quand elle dit rossignol, elle ne se compare pas au rossignol, elle devient le rossignol. Quand elle dit vigne à propos de sa soûlerie amoureuse, elle ne fait pas une comparaison, elle boit ce vin avec son palais. Mais, à la différence de Baudelaire, il ne s'agit pas chez Colette d'une ivresse. À l'ivresse de certains, elle oppose non pas la domestication du monde, ce mot banalise, mais bien une innocence, au sens étymologique du terme, un refus de nuire. Elle veut être dans le monde, elle nous fait basculer des mots aux choses, mais simplement pour nous faire éprouver la joie de vivre sans aucune nuisance, Colette ou l'inexpugnable innocence.
C'était « De l'écriture au féminin » par Julia Kristeva. Texte lu par Simon Duprez. Prise de son, Jean-Michel Coqui. Mixage, Cécile Dume, Olivier Dupré. Réalisation, Marie-Ange Garandeau.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 2003. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, troisième épisode de cette série de 5.